Sur Canal B, du 13 au 17 avril à 12h15, 8h15 en rediffusion, découvrez « Celle qui nous entoure ». Une série de podcasts issus d'un projet de jumelage sur 3 années, en partenariat avec le centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Depuis septembre 2023, le groupe Odyssée est allé à la rencontre des résidentes et résidents des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier, recueillant des récits pluriels, intimes et sensibles. À la suite de chaque épisode, Nina prolonge l'aventure et vous emmène dans les coulisses du projet à la découverte de celles et ceux qui l'ont fait vivre, artistes mais aussi soignantes. Celle qui nous entoure, à écouter sur Canal B.
Celle qui nous entoure. Première année, se rencontrer. Groupe Odyssée, compagnie de théâtre, est en résidence de création de 2023 à 2026 dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Cordel MJC et le centre hospitalier Guillaume Régnier. Un projet transversal autour de la mémoire et des liens entre patientes et personnel de l'hôpital. Avec Romain Brosseau, Cécile Carrel, Flora Diguet, Marie Niger, Marie Thomas. À l'EHPAD de Château-Giron.
Vous avez l'habitude de chanter ici?
Ah oui. Non, c'est la première fois celui-là.
Ah ouais. Ok. Ah,
c'est génial.
D'accord. Et vous, alors, vous écoutez un peu de musique ici? Vous écoutez un peu de musique ici? Ouais. Vous écoutez quoi?
On dirait de la Suisse. On est là.
Qu'est-ce que vous aimez bien, par exemple?
Elle est pas facile pour une première tête.
Alors.
Allez, go.
Dis que j'ai été faite pour une drôle de vis aiguë. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai.
Je suis en train de conduire Fordy, mon camion, qui a servi à nous emmener Romain, Marine, Cécile, Marie et moi, Flora, à notre premier karaoké café organisé dans le cadre de Celle qui nous entoure à l'EHPAD de Château-Giron, faisant partie de l'hôpital Guillaume Régnier.
Tu aimes au fond de moi. Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses
doigts. Oui, je sais qu'on va y retourner. J'ai envie, je crois qu'on a envie. J'ai envie de revoir Huguette, Alain, Eliane, Mado et tous les autres prénoms que j'ai oubliés ou écorchés. J'ai envie de revoir Stéphanie, Edith, Lorraine et leurs collègues. J'ai envie de me retrouver en face à face avec ces soignants, soignantes, avec ces gens-là qui font des métiers de dingue, des métiers essentiels, même si ce mot est galvaudé par la période Covid, des métiers plus que de vocation, des métiers qui m'impressionnent en fait, par leur faculté humaine, sensible et en même temps vitale. Voilà, j'ai adoré leur énergie et leur générosité.
Est-ce qu'on, est-ce qu'on l'a en karaoké?
Non, c'est pas celle-là.
Ah
ouais. Au cœur plein de... Ah non, Rossignol de mes amours.
Aujourd'hui, je me fous du passé.
dois mettre un mot sur ma sensation d'aujourd'hui, ben c'était joyeux. C'était pas du tout glauque. C'était pas vraiment comme je l'avais imaginé. C'était mieux. C'était mieux et qu'est-ce que j'aime la musique. Qu'est-ce que j'aime aussi dans le karaoké, ce que j'aime, c'est que ça permet une médiocrité joyeuse, ça permet de l'à peu près. Et ça, c'est cool.
Ouais, Dominique, on Rossignol de mes amours, non?
Rossignol de mes amours.
Ah, d'accord, ah, bah,
super. Huguette, Rossignol de mes amours, tu chantes?
Allez, venez, Huguette. Ma chanson.
Ah, je chante avec nous.
Voilà,
allez. Viens, ma Huguette.
L'animatrice, c'est Dieu. C'est... Sans même les résidents, de toute façon, quand Edith n'est pas là, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Edith, c'est la vie. C'est génial. Les animatrices, c'est... Oui, forcément, ils adorent.
Ben, moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de, voilà, de rendre service. C'est un peu ce qui fait mon métier aussi. Et je me dis... Ça passe, puis ça passe vite.
J'avais besoin par contre d'un retour aux sources avec les personnes âgées et aider des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient et rien fait dans la vie et qui avaient encore moins qu'eux. Donc j'avais envie de donner voilà, à ces gens. Donc je suis arrivée au pôle, gérante au pôle, que je ne pense pas être prête de quitter.
La maladie d'amour.
Moi, je suis dans mon élément. C'est vrai que personne âgée ou un peu plus jeune, bon, là, je me sens bien parce que je sais, j'essaye de proposer, voilà, de, comment dire, d'améliorer le quotidien. On essaye un petit peu de s'adapter un petit peu à tout le monde. Il faut beaucoup d'empathie, hein, de toute façon, pour ce métier aussi. Il y a des bons échanges et puis, avec les résidents. Puis quelquefois, ils nous surprennent aussi. Et puis, il y a des bons moments. Il y a des moments plus tristes, mais il y a des moments où c'est plutôt sympa et où on rigole bien aussi.
Non, mais c'est vrai qu'on a certains résidents à qui on s'attache énormément. Et quand je prends du temps, quand je m'assois près d'eux, quand on échange, quand on discute... Eh ben, on compte plus le temps. C'est vrai que là, on est plus, on est un peu en dehors du soin, de l'hôpital, de toutes ces règles d'hygiène, de tout ça. Et c'est vrai que le relationnel, ouais, moi, je parlais avec un résident, ça pourrait être, je pourrais faire ça sans compter, en fait, sans m'arrêter, ouais.
Je n'en connais pas de facile.
Michel, par exemple, vu que je le connais depuis longtemps. Bah, je sais ce qu'il prend, il prend toujours la même chose au goûter. C'est café noir avec du pain d'épices. Donc je lui mets et puis il me dit vous me connaissez bien, j'ai dit oui, puis souvent c'est un petit mot, vous êtes gentille, vous êtes mignonne, c'est un petit sourire, enfin je pense que c'est ça, ouais, le plus beau cadeau. S'il peut venir que deux de toute façon. Donc je pense que le plus beau cadeau c'est ça, c'est les remerciements qu'ils peuvent avoir avec un sourire ou une petite phrase.
Et je me dis vraiment qu'on est à la fois audacieux et confiant de proposer ces espaces festifs qui sont pas vraiment tout à fait la manière dont on travaille normalement. C'est vrai que c'est cool aussi d'envisager une des facettes de notre métier autour de ce projet où on peut faire des actions qui nous font kiffer et qui sont utiles. Parce qu'aujourd'hui, Alain n'aura pas été fumé de l'après-midi. Et ça, comme dit Edith, c'est pas rien. Aujourd'hui, Mado aura été dans un bon jour et sera venu à l'activité alors que c'est plutôt rare. Aujourd'hui, Huguette, Marie, je sais plus son prénom, Marie-Antoinette, Marie-Annick, je sais plus, qui pourtant n'arrêtait pas de me sourire, qui était super, elle aura dansé beaucoup et plusieurs personnes auront chanté. Je crois que c'est... Alors, je sais plus comment elle s'appelle, qui nous a chanté du Michael Jackson, qui a esquissé des moonwalks. Ça, je m'y attendais pas, c'était une vraie surprise. Edith et Stéphanie m'ont vraiment nommé des choses hyper précises sur le fait que la musique a un pouvoir thérapeutique hyper fort, hyper concret, qui permet de lâcher prise, de passer à autre chose, de oublier les contrariétés ou les grosses frustrations ou les grosses tristesses ou les gros chagrins ou les émotions trop fortes à gérer de la part des soignés, des résidents. Et le pouvoir libérateur ou le pouvoir de zapette ou le pouvoir fédérateur et cathartique de la musique comme ça, en claquant des doigts, en appuyant sur play facilement avec les smartphones aujourd'hui qui sont toujours dans la poche des soignantes, c'est un pouvoir magique, c'est presque une baguette magique la musique en fait. C'est automatique, t'es pas dans un bon mood, t'as ta musique préférée doudou, t'as besoin d'être énergisé, t'as ta musique dansante avec toi, t'as besoin de faire un footing, t'as ta musique de sport, je sais pas comment dire, c'est des vrais gris-gris. Des vrais porte-bonheur, des vrais gimmicks, des trucs à nous. Et là, on a partagé tous ces trucs à nous, tous ces trucs à soi. Ça s'est entremêlé de France Gall à Michel Sardou, en passant par Luis Mariano et Michael Jackson. C'était trop bien.
Pour un fleur avec toi, je ferai n'importe quoi. Avec toi, je serai prête à tout.
Bravo,
pour un simple rendez-vous. Pour un avec toi.
Vous allez garder vos paillettes jusqu'au bord de votre lit et des souvenirs en musique plein la tête. C'est un moment fort plaisant pour nous toutes.
T'as vu qu'il est au monsieur ? Non, moi j'ai confiance en lui.
Je pense qu'il faut un certain temps pour s'adapter quand même. Parce qu'après, alors, que ce soit à l'EHPAD, parce que même ici, on accueille quand même un public de psychiatrie, enfin voilà, donc c'est pas toujours facile dès les premiers jours, alors suivant l'expérience aussi que la personne a.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet après-midi, Dominique ?
Très bien.
Bah c'est prenant, physiquement c'est dur, psychologiquement c'est dur, mais après c'est enrichissant aussi. Comment dire, bah c'est une partie de notre vie, parce qu'on est quand même là, on est là souvent. Quand on vient ici, c'est qu'on aime ce qu'on fait, c'est qu'on sent notre place, mais c'est prenant physiquement et psychologiquement. Psychologiquement, c'est prenant. Faut être bien. faut être bien dans sa tête, parce que si on n'est pas bien dans sa tête, eh ben ça peut vite partir en vrille. Mais il faut vraiment être bien dans sa tête.
Alors, comment on a fait là, tout ça, c'était à Rennes.
La population psy, c'est pas la population, c'est pas le papy-mamie classique, en fait. Hein, nous, chez nous, nos gens qu'on a là, les EHPAD extérieurs en veulent pas, hein, faut être franc. Hein, on n'a personne qui les veut, hein, parce que les troubles sont trop importants, parce que voilà. Travailler en psychiatrie, il faut vraiment avoir une connaissance, je pense, de la pathologie. Toujours se renseigner de la pathologie, de comment s'adapter, comment agir face à telle et telle pathologie, puisque tu ne vas pas agir de la même manière face à une personne schizophrène, une personne qui a Alzheimer, ce n'est pas du tout la même prise en charge, le rapport à l'autre n'est pas du tout le même. Voilà, tu vas au casse-pipe à un moment donné si tu fais certaines choses avec telle personne. Voilà. Non, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance des maladies.
Oui, non, mais... Tu sais, quand t'es malade, on n'y peut rien. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas la souffrance des autres. Et quand tu ne comprennent pas la souffrance des autres. Et puis, t'as tellement de problèmes dans la médecine.
C'est vrai qu'on s'en filtre, hein, nos résidents, quand ils parlent, voilà. Et c'est vrai que si on ne se préserve pas de ça, si on ne sait pas ce que c'est, enfin, la pathologie, les symptômes, tout ça, on peut vite, en fait, tomber là-dedans et se dire, bah oui, c'est vrai qu'il m'a dit que j'étais une mauvaise professionnelle, que bah, je suis noire et que ce n'était pas ma place. Enfin, des choses, et en fait, ça peut aller très loin comme ça. Psychiatrie, au début, on n'avait pas accès du tout aux formations psychiatriques sur l'hôpital. Comme on était dans le médico-social, l'hôpital se disait, bah non, ça sera formation fin de vie, des formations bien traitantes, enfin voilà tout ça, mais pas comment gérer l'agressivité, comportement, enfin un psychotique, tout ça. Mais non, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de manque de formation. Alors là, ça commence à se, voilà, à s'étendre un peu, mais c'est toujours un peu compliqué quand même.
Ah si. C'est ça.
Donc c'est vrai qu'une infirmière en 12 heures, et bah faut être hyper autonome. Faut savoir répondre à tout, même si on sait pas trop, bah faut y aller quoi, parce que derrière il y a l'équipe aide-soignante, ASH, le SAMU, le médecin au bout du fil, donc il faut tout gérer, tout l'ensemble. Hein, donc c'est vrai que là-dessus, au niveau responsabilité, autonomie, savoir quoi faire, comment faire et tout, c'est pas simple.
J'ai une dame qui est ici, je crois que j'ai été la seule pendant des années à la faire marcher. Parce qu'elle a des articulations qui sont très très molles. Donc ça, quand tu la prends par les mains, t'as l'impression qu'elle va te lâcher. Mais elle lâche pas, elle est hyper... maintenant si, parce que c'est fini, mais... à ces moments-là, non, elle lâche pas. Et je me rappelle, je la faisais marcher dans la salle de bain, je la mettais sur les toilettes. Moi, je me dis, tant qu'on peut, on fait. Et ouais, il y a des risques à prendre, c'est sûr, il y a des risques. Mais voilà, je prends le risque.
Les chansons. Ah oui.
Non. Et vous avez chanté plein de chansons aussi, hein. Miss Mariano.
Non, c'était pas là ce matin. Pour les chansons.
D'accord. Et vous aimez bien chanter. Bah oui, on a senti. Hein.
D'accord.
80 ans. Alors qu'est-ce que vous avez chanté là? Vous nous avez chanté. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien par exemple?
Qui veut du coca? Avez-vous Nicole?
Les décès, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué à gérer. Avec une population en plus, nous, où il n'y a pas vraiment de famille en fait. Donc c'est vrai qu'on est leur famille. Même si on n'a pas le droit de se considérer comme étant leur famille, ça c'est sûr. Enfin, moi, mais on s'attache effectivement. Moi je suis humaine avant tout. Et c'est vrai qu'on a vraiment une tendance à s'attacher à ces gens qui justement n'ont personne. Il y a des gens ici, ils ne voient personne. Ils ont de la famille, mais bon, pour des raisons qui leur sont propres, hein, les familles ne viennent pas. Et donc, bah, c'est vrai que bah, on s'attache. Et cette petite dame là, bah, c'était ça. fait partie du job. On sait qu'on n'a pas le droit, on sait, on nous rabâche à l'école, on nous le rabâche, tout va, de ne pas s'accrocher, on n'a pas le droit de s'accrocher aux gens, mais bon, je pense que la réalité est autre quelquefois, hein. C'est complètement, complètement voilà, différent.
Qui ça?
Là, on est en plein dedans en ce moment. C'est au niveau de la prise en charge des résidents, de nos résidents ici. C'est qu'en fait, il y a un truc qu'on ne comprend pas, je ne suis pas la seule, on est tous. En fait, quand on a quelqu'un ici qui n'est pas bien, qui est sur la pente descendante ou qui arrive en fin de vie, en fait, il ne reste pas ici. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. On a le cas d'une petite dame, là d'ailleurs, je viens de la prendre. Qui passe en soins palliatifs, qui a été hospitalisée là. Et en fait, cette petite dame, ils l'ont mise à l'USLD, à Rennes. Donc ça, on a du mal à ça. C'est un truc que je voudrais changer, en fait. Vu qu'ils passent une partie de leur vie ici, qu'ils terminent leur vie ici, en fait, avec des visages qu'ils connaissent, des gens qu'ils connaissent, même pour les familles, parce qu'elle a un fils, cette dame-là, par exemple. Et du coup... il va arriver dans un service où il connaît personne. Donc ça, je trouve, ça serait un truc à changer. Vraiment, qu'ils partent chez eux. Je mets des guillemets, mais c'est quand même qu'ils partent ici, quoi. Vraiment.
Jean-Claude, arrête de reculer.
Et du coup, c'est ça, c'est toujours cette histoire de fin de vie, de les laisser partir, de prendre en charge vraiment leur mal-être, leur douleur, beaucoup, beaucoup plus tôt, quoi. Parce que des fois, on les voit... On les voit pas bien, quoi. Et puis on peut rien faire, à part leur tenir la main, leur parler. Nous, on est impuissantes face à ça.
On aime bien faire la fête. Vous avez bien chanté, en tout cas. Hein. Ouais, super.
Une chemise de lui.
Vous pouvez dire quelle heure?
Quand on veut.
Quand vous voulez. C'est bien.
On n'est pas pressé. On est bien.
Oui.
On a le temps.
Mais
on reviendra.
Ouais.
Dans quelques mois, on reviendra. Vous avez une guitare ici?
Ici, là?
Oui.
Non.
Vous sauriez encore jouer?
C'est ma mère, oui.
Vous sauriez jouer?
Oui.
Il vous faudrait une guitare?
Pourquoi pas?
Alain m'a parlé. Alain s'est raconté. On a beaucoup rigolé. Alain est né un jour d'hiver, à Dinard, le 2 février 1956. 20 cm de neige, c'est ce que ses parents lui ont dit. Ses parents étaient affectueux et surtout, ils lui ont laissé faire de la musique dès son plus jeune âge. Ils l'ont autorisé et même il a pris des cours. Il a grandi dans la musique. Il a la musique dans la peau. Il commence à 13 ans, il a eu une guitare comme cadeau de communion. Il lui manque, ses parents. Il a eu une professeure de musique, il a fait partie d'un orchestre de 5 musiciens. Lui, il faisait de la guitare et du chant. Il chantait. Il chantait de tout, tous les styles. Ils ont joué à Orgères, pas loin de Rennes. C'était un bal, ça avait bien marché. Et puis il a arrêté. Il a tout arrêté. Du jour au lendemain, l'orchestre, les bals, la guitare. Parce qu'un des musiciens commençait à boire. Il lui a dit « Jackie, si tu continues à boire comme ça, j'arrête tout ». Et il a tout arrêté. Il avait 25 ans.
On est jeune, des fois on est bête. Des fois quand on est jeune, on est bête.
Pourquoi?
Non, si.
Des fois quand on est vieux aussi, on est bête. Hein.
J'ai remarqué ça aussi.
Vous connaissez la chanson de Brassens?
Oui.
Brassens, il dit « Quand on est con ».
On est con.
Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Ouais. Quand on est con, on est con. Je
vois que tu vois. Ah, tu me fais rire. Ça raconte aussi des drôles de vrai. Ça raconte des drôles de vrai.
Tu m'as dit tu voulais la photo, on verra.
Enfin, j'ai passé.
Et quand on est jeune, des fois, on est bête.
On est bête aussi. On est bête.
Alain est un homme qui fume beaucoup quand il s'ennuie. Il a 2 paquets de cigarettes dans la mini-poche de son polo. C'est un homme qui complimente aussi et qui flirte ouvertement. Il parle de moi en disant « la petite ». Et il dit « je me suis dit qu'elle était mignonne, celle-là ». La distance et l'humour qu'il y a font passer la pilule de ce sobriquet que je n'aime évidemment pas. Dans le flux de la conversation vient à passer un « et est-ce que vous vivez maritalement ?»« Bon, ça ne me regarde pas », dit-il, et il sourit. Un homme aussi qui parle de son intelligence plus développée que les autres personnes ici. Il le dit. Étrangement, ça ne semble pas trop déplacé vu le contexte. Il parle très bas. Je me penche pour l'entendre. On nous donne des médicaments. On en prend beaucoup. Je sais plus les noms. C'est pour soigner. Pendant la chanson « Allumez le feu » chantée par Martine et Romain, il fait semblant de jouer de la guitare. Il fait du air guitare. Ça me donne envie qu'il ait une guitare dans sa chambre. Tout d'un coup, ça me semble évident. Et ça me paraît si simple de mon point de vue. Pourquoi ne lui donne-t-on pas de guitare? Lui, il me dit « Ah, ça se perd, la guitare. » Il me dit qu'il ne saurait plus.
C'est vrai. La vie, tout ça.
Dans le week-end, je ne vais pas être là, mais dans son...
Vous chantez bien.
J'adore chanter. Non,
alors, on ne pas rechanter. Chante bien, Edith.
Ah, mais Alain, on a, on a été parfait.
Alain, quel sacré danseur.
On s'était dit qu'on était n'importe où par là. Hein.
27 mai, à l'EHPAD de Château-Giron. Ah ouais, c'est la 2e fois que nous sommes venus à l'EHPAD de Château-Giron. C'était pour interviewer 6 personnes de l'équipe. Ça s'est passé dans les bureaux en bas. On a quand même fait une petite visite à l'étage avec l'envie de saluer les résidents qu'on connaissait, qu'on avait rencontrés pendant le karaoké. Et c'était l'heure du goûter. Donc on recroise des têtes connues, des gens avec qui j'ai l'impression d'avoir déjà vécu toute une histoire. Marie-Christine, Martine. Martine qui avait superbement participé au karaoké avec Allumer le feu et qu'on a retrouvé au CSTC pour chanter dans notre chorale éphémère. En vrai, j'espère surtout croiser Alain, avec qui j'avais bien discuté et rigolé après le karaoké. Je le cherche des yeux dans les couloirs, j'entre dans la salle à manger. Il n'est pas là. Je vois Paul à une table avec qui j'avais chanté. Mais j'ai de l'appréhension à approcher, j'ai peur qu'ils ne me reconnaissent pas, je ne sais pas, j'ai pas l'énergie. Ça me coûte, je ne sais pas comment m'y prendre, je ressors. Et là j'aperçois Alain, un peu plus loin, avec un déambulateur, très penché, il est très blanc. Je sais pas, même ses habits semblent ramollis. Une aide-soignante l'accompagne à table, et il nous passe à côté, il ne nous voit pas. Donc on s'approche et au bout d'un moment, son regard se lève vers nous et s'illumine en voyant Romain. Mais moi, je suis à côté et il ne me regarde pas. Bon, Romain, il ne semble pas le remettre bien dans le contexte. Après, il me regarde, mais son regard est flou. J'arrive pas à l'interpréter. Il a son beau sourire, que je lui connais, mais il ne me reconnaît pas. C'était il y a seulement 2 mois, le karaoké.
C'était « C'est eux qui nous entourent ». Première année, se rencontrer. Un projet de groupe Odyssée. Réalisation, Marine Iger. Coordination du projet, Romain Brosseau. Avec Flora Diguet et Marie Thomas, actrice, Cécile Kerel, autrice. Merci à Mado, Alix, Huguette, Dominique, Martine, Marie-Christine, Paul, Eliane, Michel, Alain, Edith, Axel, Pamela, Liliane, Stéphanie, Aurélie, Lorraine, et leurs collègues. Et merci à l'équipe du Grand Cordel MJC et aux équipes du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Podcast réalisé dans le cadre de la première année de jumelage entre Groupe Odyssée, le Grand Cordel et le Centre Hospitalier.
Vous venez d'entendre une des restitutions sonores du projet « C'est le qui nous entoure », un projet artistique de 3 années, en partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier, la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Et pour accompagner ces immersions sonores, encore une fois, vous partagez un petit bout des coulisses de cette réalisation. Canal B reçoit en plateau, après chaque épisode, une personne ou plusieurs personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Et aujourd'hui, avec nous, dans les studios de Canal B, nous avons
Marine Niger, bonjour. Je suis créatrice sonore et réalisatrice de podcasts.
Bonjour, Edith Neveu, animatrice à l'EHPAD.
Et Romain Brosseau Jeunesse, acteur, metteur en scène et coordinateur artistique du projet.
Merci à vous trois d'être avec nous. Aujourd'hui, nous venons d'entendre avec les auditeurs et auditrices de Canal B un journal de bord d'une 30aine de minutes environ, des ateliers de la résidence artistique que vous avez menés entre autres à l'EHPAD de Château-Giron. J'ai une première question pour vous, Edith, qui êtes animatrice à cet EHPAD de Château-Giron. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être animatrice dans un EHPAD ?
Alors, le travail d'animatrice à l'EHPAD, donc, c'est de proposer des activités diverses et variées auprès des résidents en tenant compte aussi de leurs souhaits, de leurs envies et de leur histoire de vie aussi, et de les accompagner au quotidien à travers des activités manuelles, des sorties extérieures, alors tout ce qui est le lien social aussi, c'est important à l'EHPAD. Donc voilà, enfin, un petit peu ce qu'on fait.
Et pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien de quoi on parle, l'EHPAD de Château-Giron, il dépend donc du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. En cela, c'est un établissement public ?
Tout à fait. Tout à fait. L'EHPAD du Prévôt appartient au Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Donc nous, on accueille 40 résidents à l'EHPAD à partir de 60 ans. Voilà.
Romain, une question pour vous. Dans cet épisode, on vous entend faire des karaokafés, si c'est bien ça le bon terme.
Tout à fait.
Karaoké et café avec les résidents résidentes de l'EHPAD. C'est un épisode qui est très joyeux, peut-être en comparaison avec d'autres épisodes de ce cycle de podcast qui sont un peu plus durs, un peu plus lourds. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'artiste comédien, ces moments avec les résidentes de l'EHPAD de Château-Giron ?
Bah, c'est vrai que c'était très joyeux parce que Flora en parle dans le podcast, la musique. C'est hyper porteur. Et en plus, vraiment, on est parti sur le mode d'un karaoké. Donc, le karaoké, vraiment, on s'en fiche de savoir qui chante bien, qui chante pas bien. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que chacun puisse à un moment se laisser tenter par le répertoire. Et ça a très, très bien marché à l'EHPAD. J'ai l'impression que quasiment tout le monde y est passé. Pas que les résidents, résidentes, mais aussi l'équipe soignante. Et puis nous, on était ravis. Souvent, on accompagnait en fait les personnes si elles voulaient pas y aller toutes seules. C'était très joyeux, ça s'est suivi d'un goûter. Donc c'est tout de suite un lien très fort. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à la musique.
Edith, est-ce que vous avez chanté aussi pendant ce karaoké ?
Oui, j'ai chanté.
Vous avez chanté quoi ? Je suis un peu curieuse.
Alors je ne sais, j'ai chanté un petit peu avec tout le monde. J'ai accompagné un peu la plupart des résidents aussi, voilà. Mais c'est vrai que c'était. Alors je reconnais que les résidents aiment beaucoup la musique et on a vraiment au quotidien. Enfin, il y a toujours une petite musique d'ambiance. Après, il y a des fêtes à thème et où on fait intervenir des gens, des musiciens ou des chanteurs. Et là, c'est vrai que ça porte beaucoup, ouais, la musique et puis les blind tests, tout ça. Et donc là, vraiment, cet après-midi-là, c'est vraiment quelque chose de grand.
Donc pour vous, c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Comment vous les avez accueillis, ces artistes, parce qu'ils étaient quand même plusieurs à venir sur la même après-midi?
Oui, c'était la première fois qu'on faisait un karaoké avec une équipe d'artistes, on va dire. Et puis pour les résidents aussi, parce que je pense qu'il y a le côté, c'était d'autres personnes que les soignants qui sont là au quotidien, ils nous voient tous les jours. Et là, il y avait vraiment des personnes qui arrivaient, autres, et franchement, il y a eu des beaux échanges et parfois même surprises dans le bon, après au moment du goûter, j'écoutais un petit peu ce que disaient les échanges qu'avaient avec les résidents et j'entendais des petites choses qu'on n'avait pas nous non plus qu'on n'avait pas entendues forcément, donc ils étaient, on les sentait plus libres de se confier. Voilà, c'était un beau moment.
On y reviendra tout à l'heure sur l'effet que cet après-midi a pu avoir sur les résidentes de l'EHPAD. Peut-être Marine, pour continuer, une question pour vous qui êtes créatrice sonore, réalisatrice de podcast. À un moment dans cet épisode-là, on entend, je ne sais plus qui a le micro, mais en tout cas, quelqu'un dit « c'était d'une médiocrité joyeuse, c'était de l'à peu près » en parlant du karaoké. Alors vous, est-ce que c'est pas un peu le contraire de ce que vous essayez de faire dans votre métier, parce que la création sonore, c'est quand même très rigoureux, très pointilleux. Alors comment vous avez abordé cet épisode-là ?
Alors de manière très spontanée, en même temps assez. En fait, on est reparti presque sur l'ordre chronologique de l'après-midi. Et c'est vraiment la restitution de comment ça s'est déroulé ce jour-là, cet après-midi-là, avec les résidents. La construction, elle est vraiment. On part vraiment des ambiances enregistrées cet après-midi-là. Il y a à la fois des enregistrements avec un Tascam et des enregistrements au téléphone. Au moment du goûter, notamment, avec des moyens qu'on avait à ce moment-là. C'est vraiment le déroulé de l'après-midi, ponctué par aussi les entretiens qu'on a menés avec les soignants, les soignantes, ponctué aussi par les journaux de bord, de celui de Flora, celui de Marie, qui nous raconte sa rencontre avec Alain. C'est vraiment traduire un peu l'après-midi dans l'ordre qu'on l'a passé avec eux, mais aussi une construction derrière assez rigoureuse, du coup.
Edith, vous parliez tout à l'heure que grâce à cet après-midi, il y a eu des petites surprises, des choses qui se sont un peu découvertes que vous n'auriez peut-être pas attendues des personnes avec qui vous travaillez tous les jours. Comment vous définiriez le lien que vous avez avec les résidents, résidentes de l'EHPAD ? Je voudrais parler d'un moment particulier où je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un d'autre dans le podcast, qui appelle quelqu'un peut-être par son surnom. J'entends Guéguette pour peut-être Huguette. Alors je ne sais pas si c'était un résident ou quelqu'un de la troupe, mais en tout cas, ce qui ressort de ce podcast, ce qui est sûr, c'est qu'on sent des liens assez affectueux dans l'ambiance sonore.
Oui, il y a toujours des petits liens. Alors je pense le petit surnom de Huguette, Guéguette. Alors oui, c'est vrai que on est au quotidien avec eux et c'est vrai que pendant des années parfois et y a vraiment des liens. Comme on dit quelquefois, faut pas s'attacher, mais en fait c'est inné. Enfin, on s'attache quand même aux résidents, donc il y a des liens qui se créent. Même eux, quelquefois, ils ont leur préférence, on va dire. Et puis on apprend tellement de choses au quotidien, sur eux, et ce qui crée en fait la relation, en fait. Et eux aussi, ils ont leur, on va dire quelquefois leur préférence. Ils savent nous appeler. Quelquefois, ils connaissent beaucoup de choses aussi sur nous parfois, parce que c'est vrai qu'on est un peu, comment dirait, un peu en famille, un petit peu. C'est fort quelquefois ce qui peut se créer, ouais.
Est-ce que vous aviez déjà vécu des expériences où effectivement il y a des intervenants qui viennent dans l'EHPAD où vous travaillez ? Et peut-être, pour élargir un petit peu ma question, comment on pourrait faire pour qu'il y ait des liens plus quotidiens entre les personnes âgées qui sont en EHPAD et puis toutes les autres strates de la société ? Parce qu'il n'y a pas forcément de connexion intergénérationnelle qui se fait tous les jours.
Oui, c'est vrai. Alors c'est un peu à nous, c'est notre rôle aussi, nous, en tant qu'animateurs, d'aller aussi chercher ce qui peut être fait aussi pour amener ou aller vers l'extérieur aussi. Donc là, c'est vrai que c'était un projet qui correspondait autant pour les artistes sont venus à la résidence, mais on a fait aussi, on est allé aussi vers le CSTC quand il y a eu une chorale. On a fait d'autres sorties en lien avec ça, avec le projet. Et donc, après le projet intergénérationnel, c'est quand même assez. Ça crée beaucoup de liens aussi avec les résidents. Là, nous, par exemple, on a un petit projet aussi avec une crèche, là, et donc c'est tout nouveau. Et je pense qu'il faut aller vers des projets comme cela pour divertir. Et puis, pour les résidents, ils ont besoin aussi de continuer à vivre une vie de liens, en fait.
Je demandais à la pause déjeuner à mes collègues ce qu'ils aimeraient, eux, vous poser comme question à des personnes qui travaillent avec des résidents résidents en EHPAD, mais aussi à des créatrices sonores et à des artistes qui travaillent sur des projets comme celle-là qui nous entoure. La première question qui leur est venue à l'esprit, c'est quel est le banger musical des personnes en EHPAD, c'est-à-dire quelle est la chanson la plus demandée lorsqu'on fait un karaoké avec des personnes âgées en EHPAD. Est-ce que vous avez une ou deux choses qui reviennent à chaque fois? Peut-être Edith ou Marino Romain qui avaient vu ces événements-là.
Alors, on a souvent Michel Sardou qui revient, voilà.
Eh oui.
parce qu'il me vient à la tête, on a fait encore il n'y a pas longtemps des petites chansons. Après, il y en a plein. En fait, la dernière fois, j'ai une collègue qui dit, moi je vais faire un blind test. Et en fait, on sait un petit peu chaque résident ce qu'il aime, en fait. Et donc, bon, on tourne un petit peu avec leur... mais c'est, oui, c'est ça, c'est la compagnie créole. Alors je reviens sur Huguette, on savait, enfin c'était Luis Mariano, c'était son, alors voilà, et c'est vrai que quand on avait dit Luis Mariano, alors là tout était, tout s'apaisait, tout, enfin c'était le bonheur parfait. Mais il y en a plein d'autres là comme ça.
C'est déjà pas mal, on peut déjà un peu se projeter dans cet événement-là. Romain, vous me parliez dans une émission précédente de ce que le fait qu'être artiste ou comédien permettait de faire émerger, et Edith l'a un petit peu évoqué en début d'émission, pouvait faire émerger chez des personnes qui sont pas forcément isolées, mais effectivement plus dans la vie de société de tous les jours, en tout cas qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Dans cet EHPAD-là, à Château-Giron, qu'est-ce que votre position d'artiste-comédien vous a permis de faire émerger avec ces personnes-là?
Bah, je pense que le fait qu'on représente, alors Edith disait, il y a du divertissement. Alors parfois c'est un mot qui peut être un peu péjoratif, mais là en l'occurrence c'était aussi l'objectif, c'était de s'évader, s'amuser, oublier un peu le quotidien. Et on ne s'est pas cantonné que à ça. On est allé plus loin, nous après, bah voilà, sur l'écriture et sur le récit de nos passages à l'EHPAD. Mais en effet, je pense que nous, on arrive avec aussi, ils ne nous connaissent pas, et pourtant, on vient leur offrir quelque chose. Et on l'a fait avec une grande générosité, mais très égoïste, hein, on était très contents d'organiser un karaoké. Donc, je pense que il y a quand même cette reconnaissance-là, donc il y a un lien qui se crée tout de suite, une ouverture, et effectivement, d'un seul coup, là, tout de suite, j'ai Marie et Alain dans la tête, hein, qu'on vient d'entendre, d'avoir d'un seul coup quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est clairement pas soignant, soignante, artiste en plus, c'est un truc un peu fun, quoi, un peu impressionnant, un peu cool. Je pense qu'effectivement, ça crée une sympathie, enfin, une empathie en tout cas, qui se crée tout de suite. Et oui, alors c'est la. Pour nous, en tout cas, ça représente aussi beaucoup. D'un seul coup, de rencontrer une rencontre aussi forte, aussi immédiate, ce qui est très déroutant, et dans le podcast, on l'entend très bien, c'est que ça représente beaucoup pour nous, alors pour elle et eux aussi, sur le moment, mais par contre, c'est quelque chose qui peut s'oublier très vite. Nous, on a l'impression d'avoir. Voilà, j'ai envie de demander plein de nouvelles à Edith, des personnes qu'on a croisées. Donc, je vais lui demander après l'émission. Oui, je pense que c'est le côté, peut-être la générosité. Et puis aussi le pas de côté, quoi. C'est pas du soin, c'est pas de l'animation comme ça, c'est le travail d'Edith. Ça sort du quotidien.
Marine, vous êtes membre de la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et créatrice sonore dans ce cadre. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières sur la prise de son, le montage, peut-être l'accompagnement? Peut-être que vous avez chapeauté un petit peu vos collègues artistes, comédiens, comédiennes sur la création sonore?
Moi, on est tous les cinq sur cet après-midi à l'EHPAD, on intervient tous les cinq. J'ai chanté comme tout le monde, enfin, c'était trop bien, on a chanté. Mais avec effectivement le côté technique, enregistreur allumé... et puis pour capter le maximum d'ambiance aussi de cet après-midi-là. Je pense que les choix, on a fait tous ensemble des choix après d'écriture de chaque podcast, parce qu'on a récolté toute la matière. Au bout d'un an, on s'est retrouvés pour une semaine de résidence, un peu bilan de cette première année, et on a beaucoup, tous les cinq, dérushé les entretiens, enfin ça a pris du temps. heureusement qu'on était là à faire ça tous les cinq. Et après, du coup, de là, presque naturellement, en fait, l'histoire des cinq podcasts s'est vraiment écrite de nos discussions, en fait, de nos discussions. Moi, j'ai pris plein de notes. Et après, je retourne à la maison faire le montage, qui était déjà... Ouais, l'histoire était déjà balisée, quoi.
Est-ce que vous avez un exemple de discussion ou de choix qui a été dur à prendre, ou en tout cas sur lequel vous avez bien dû échanger parce que vous n'étiez pas forcément d'accord sur est-ce qu'il faut plutôt mettre ce témoignage-là ou ce témoignage-ci ?
Non, c'est assez simple. On est à peu près tous très d'accord dans tout ce qu'on a réalisé là. Et après, c'est vrai que c'est un peu moi qui ai le final cut, on dit, au dernier moment, mais... c'est aussi la matière, comme je disais tout à l'heure, qui décide un peu de la qualité sonore. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui est le mieux? J'ai souvenir qu'on s'est questionné à un moment donné. On s'est demandé, est-ce qu'on garde leur vrai prénom à toutes ces personnes qu'on enregistre? On en a discuté, on s'est dit, on conserve aussi la spontanéité, enfin l'enregistrement tel qu'il est.
Il y a, en tout cas, je me souviens de... C'est pas des désaccords, mais en fait, là, sur ce podcast, par exemple, on est tous les cinq. Puis, il s'est passé d'autres choses encore après à l'EHPAD, où on n'était pas forcément tous les cinq, hein, on n'est pas tout le temps à cinq, pour des questions d'orga, pure et bête. Et je sais qu'il y a l'attachement aussi à ce qu'on a vécu. Je pense notamment aux entretiens qu'on a fait avec les soignants et les soignantes, où... Moi, je suis attaché à l'entretien que j'ai, parce que l'entretien sonore, c'est aussi un moment en vrai que j'ai passé avec telle ou telle personne. Et alors, c'est pas tant dans les podcasts, c'est plutôt dans notre institution, notre bilan justement, comme disait Marine, où il y a un moment, on peut pas tout mettre. Et ça, c'est une grande frustration. Alors que il y a des choses, il y a des pépites chez tout le monde. Donc c'était une petite bataille aussi de se dire, non, mais moi, la mienne, je pense que c'est vachement bien. Oui, mais non, mais la mienne, elle dit ça. Bon voilà, après on s'est trouvé un équilibre pour ouvrir le maximum de portes et brasser le maximum de sujets. Mais on s'attache aussi à ce qu'on a vécu, aux histoires qu'on a à partager.
Vous avez réalisé 5 podcasts donc sur 5 terrains différents. Vous allez bientôt être en sortie de résidence, donc le 18 avril à la MJC Grand Cordel. Si, et là je m'adresse plutôt à Marine, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de ce grand projet qui a duré 3 années, qu'est-ce que selon vous ce devrait être ?
C'est vaste. Mais je dirais qu'on a fait des choses avec elle, avec eux. On a construit, en fait, on s'est rencontrés, on a construit un lien qui est là.
Ouais, moi je pense que c'est tout le truc de la culture. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas, c'est inquantifiable. C'est... Heureusement qu'on a quand même des gens comme Edith qui parfois nous racontent, nous disent « Non, mais en fait, cette personne-là, elle était au fond du seau avant de vous rencontrer, ou en tout cas de travailler avec nous. » Puis, au fur et à mesure d'une semaine, elle remonte. Voilà. Il y a des gens pour qui ça, je pense, ça a marqué un moment de leur vie, en tout cas. Maintenant, c'est un peu inquantifiable. Donc, impossible à savoir.
Effectivement, je rejoins un petit peu. En fait, je me souviens de le karaoké. Ça a été au-delà des horaires qu'on s'était... un petit peu calé, en fait, parce que nous, après, il y a l'organisation, le goûter. Bon, là, on le faisait tous ensemble, mais après, il y a le travail derrière qui continue. Et on a dépassé ce temps, parce que même c'était même difficile. J'ai l'impression que les résidents retenaient l'équipe un petit peu en disant « bah non ». Et donc, quand il y a eu après la séance, après, on a fait les poèmes, en fait, et là, pareil, ça a été un bon moment. Et je disais « vous savez, si l'équipe qui était venue quand on a fait le karaoké, alors pour certains, c'était encore un peu oublié, mais pour d'autres, ils disent « ah oui, bah moi je viens ». Donc, on s'est retrouvés, pareil, il y avait beaucoup de résidents, pareil, sur la deuxième séance. Mais non, c'est très fédérateur, en termes même avec les équipes, pour les résidents, et vraiment un lien là où c'est ce qu'on cherche en priorité. Enfin, là, c'était rempli.
Et bien justement, la deuxième question que mes collègues, en m'aidant un petit peu à préparer, en tout cas à peaufiner cette interview, auraient aimé vous poser, c'était comment on voit concrètement le bien que des ateliers comme ceux-là font sur les personnes qui sont dans ces établissements. Vous y avez un petit peu répondu. Est-ce que vous avez encore un ou deux exemples à nous partager?
C'est ça, oui, je disais que quand on leur dit ou ils reviennent, et là, il y a un grand sourire, ils disent « ah oui, ben moi je me souviens, ben moi je peux aller, je peux venir, je peux... » bien sûr, et c'est quand ils en parlent. quand ils en parlent la nuit, enfin à l'équipe de soir qui arrive pour la nuit. Donc on a fait ça, donc moi après les collègues me disent Eliane par exemple elle m'a raconté que vous avez faim, parce que tout le monde, toute l'équipe n'était pas là bien sûr, il y avait une partie, mais donc voilà, ils font le lien et ça va de professionnel en professionnel, voilà. Et puis moi je veux revenir, et puis quand ils en parlent quelquefois au bout d'un moment, on avait fait ça, donc il y a toujours un petit souvenir, quelque chose qui rappelle qu'eux, et c'est là où on se dit c'était plutôt sympa, c'est qu'ils ont apprécié, voilà.
Une dernière question pour finir pour vous, Edith aussi, est-ce que vous aussi vous aimeriez que des événements comme ça aient lieu plus souvent au sein de votre lieu de travail?
Ah, complètement. Alors là c'est vrai que c'était, pour la part, c'était un projet, enfin on avait fait quelques projets, mais c'était le premier grand projet sur 3 ans, donc c'est vrai qu'il faut se projeter et se dire voilà, mais chaque rencontre, et on n'a pas fini encore, voilà, et c'est des bons moments, enfin pour les résidents, enfin franchement oui, plutôt, on est plutôt partant, voilà, sur des petites choses comme ça, ouais. Pas des petites choses, c'est des grandes choses, parce que, voilà.
Merci beaucoup, Edith, Romain et Marine, d'avoir été avec nous sur le plateau de Canal B.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'était Celles qui nous entourent, une série sonore consacrée au projet du même nom, portée par le centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Un épisode à retrouver sur le site de Canal B.